Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Bagassi Koura et Jean-Roger Bion en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du vendredi 20 mai 2016. Voyons ce qui fait l'actualité ce matin.
En République démocratique du Congo, l'actualité reste dominée par cette inculpation hier de Moïse Katumbi par le parquet pour atteinte à la sûreté de l'État.
Concernant toujours la RDC, le célèbre docteur congolais Denis Mukwege lui pense que l'heure du changement est arrivée.
Il faut faire plus, il faut changer le système complètement où l'homme doit être au centre des préoccupations des dirigeants. Je crois que le changement doit être radical.
L'armée nigériane a annoncé hier avoir retrouvé une deuxième rescapée parmi les 219 lycéennes de Chibok kidnappées par Boko Haram.
Les opérations de recherche de l'Airbus A320 d'Egypte Air se poursuivent. Désormais, les autorités égyptiennes évoquent un possible acte terroriste.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Oui, en RDC, l'actualité reste dominée par cette inculpation hier de Moïse Katumbi par le parquet pour atteinte à la sûreté de l'État. L'opposant est accusé d'avoir recruté des mercenaires de Lubumbashi, la correspondance de Narval Mabila.
Après la troisième édition manquée du vendredi 13 mai, suite à des incidents, Moïse Katumbi vient d'être inculpé le jeudi 19 mai pour atteinte à la sûreté intérieure comme extérieure de l'État, alors qu'il se trouve hospitalisé au centre médical de la communauté au 4 industriel pour des soins appropriés liés à sa santé. Surpris par la publication en bande passante sur Télé 50, alors qu'il bénéficiait des 2 jours lui accordés par le parquet sur demande de son médecin, les avocats conseils de Moïse Katumbi ont rencontré le procureur général pour échanger sur la confirmation de la nouvelle et par la suite ils ont rencontré tard dans la soirée leurs clients et sans faire aucune déclaration à la sortie. Devant le centre médical, certains louchois ont appris la nouvelle et ils étaient présents pour s'enquérir de la situation jusque tard dans la soirée.
On peut amener un mandat d'arrêt. Pourquoi? Nous sommes étonnés par rapport à ce que nous venons de suivre comme mandat d'arrêt au parquet général. C'est à la télé 50. Ça passe dans le banc de filante. Ils sont en train de passer le banc de filante que Moïse Katumbi, il est sous mandat d'arrêt. On voulait venir le donner le mandat d'arrêt. C'est ça qui signifie notre présence ici. Nous sommes inquiets parce que c'est notre président. Il est encore malade. Il est à l'hôpital. Puis on peut amener quelqu'un qui est malade. On peut l'amener le mandat d'arrêt comment? C'est ça qui signifie notre présence ici.
Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
L'armée nigériane a annoncé hier avoir retrouvé une deuxième rescapée parmi les 219 lycéennes de Chibok kidnappées par Boko Haram. Lionel Gaïma.
Selon le porte-parole de l'armée nigériane, le colonel Sani Ousman, la deuxième otage de Chibok se trouvait parmi 97 femmes et enfants libérés jeudi lors d'une opération conjointe de l'armée et des miliciens aux alentours de Damboa, dans l'état de Borno, dans le nord-est. La jeune fille du nom de Sarah Luka recevait hier des soins médicaux dans une caserne de Biou, dans l'état de Borno. Quelques heures plus tôt, Amina Ali, la première rescapée de Chibok, découverte mardi par des milices locales et par l'armée, est arrivée à Abuja par avion depuis Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, avec sa mère, Binta, pour rencontrer le président. Au terme de leur rencontre, M. Buhari a assuré que le gouvernement ferait tout ce qu'il peut pour sauver d'autres jeunes filles de Chibok.
Au Mali, 5 casques bleus tués et 3 autres grièvement blessés. C'est le bilan d'une embuscade dans la région de Kidal. Énième attaque terroriste dans cette région qui n'est pas sous le contrôle du gouvernement central de Bamako. Ce n'est pas non plus la première fois qu'une attaque de ce genre touche le contingent tchadien qui est le plus mobile dans la région de Kidal.
Deux humanitaires maliens de l'ONG Médecins du Monde Belgique, leurs chauffeurs, levés hier par des hommes armés dans la région de Ménaka, ont été libérés. Morgane Guériec.
Les deux travailleurs maliens de l'ONG Médecins du Monde Belgique avaient été enlevés près de Ménaka par des hommes armés. Leur conducteur, de nationalité malienne, avait également été kidnappé. La veille, mercredi, un véhicule loué par Médecins du Monde Belgique avait été attaqué et saisi par des hommes armés près de Ménaka. Un infirmier et un chauffeur qui se trouvaient à bord avaient réussi à se sauver. Toujours mercredi, 5 casques bleus tchadiens ont été tués et 3 autres grièvement blessés dans une embuscade dans la région de Kidal. À noter aussi que le 16 avril, 3 collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge ont été kidnappés à Abeibara, au nord de Kidal, avant d'être relâchés. Leur enlèvement avait été revendiqué par le groupe Ansar Dine. Les djihadistes ont été en grande partie chassés du nord malien, mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères.
La lutte contre le terrorisme en Tunisie a coûté environ 4 milliards de dollars. L'estimation a été faite par le président tunisien Béji Caïd Essebsi jeudi à Doha. La Tunisie fait face depuis sa révolution en 2011 à un essor de la mouvance djihadiste. Elle a été le théâtre en 2015 de 3 attentats majeurs revendiqués par le groupe État islamique. Des attentats qui ont fait 72 morts.
Et retour sur cet accident hier au Burkina Faso. Au moins 24 personnes ont été tuées sur la route nationale 1 reliant la capitale Ouagadougou à Bobo-Dioulasso, deuxième ville à l'ouest du pays, lors d'une collision entre un autocar et un camion. Dans la foulée, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour s'attaquer aux causes des accidents de la route. Les autocars seront désormais plombés pour limiter leur vitesse à partir du mois prochain.
Au Togo, quatre partis regroupés au sein du collectif CAP 2015 appellent à une manifestation de rue à Lomé ce samedi. La marche suivie de meeting est organisée pour exiger les réformes telles que prévues par l'accord politique global.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les opérations de recherche de l'Airbus A320 d'Egypt Air se poursuivent. L'appareil reliant Paris au Caire s'est abîmé hier au large d'une île grecque avec à bord 66 personnes. Désormais, les autorités égyptiennes évoquent un possible acte terroriste. D'autres détails avec vous, Lionel Gaïma.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a demandé à tous les appareils de l'État concernés, y compris le ministère de l'Aviation civile, la marine et l'armée de l'air, d'intensifier des opérations de recherche pour retrouver les débris de l'avion. Le président du comité grec de sécurité aérienne, Anastasios Binos, a affirmé à l'AFP que les débris retrouvés jusque-là dans la zone proche du point de chute présumé du vol d'Égyptair ne proviennent pas d'un avion. La compagnie égyptienne avait auparavant annoncé, en arabe sur Twitter, la découverte de débris qui pourraient être ceux du vol MS-804. Mais le vice-président d'Égyptair, Ahmed Adel, a indiqué jeudi soir sur CNN que les débris retrouvés n'appartenaient pas à notre avion. Le vol MS-804, à bord duquel se trouvaient notamment 30 Égyptiens et 15 Français, a soudainement disparu des écrans radars sans qu'aucun problème n'ait été signalé par le pilote et alors que les conditions de vol étaient excellentes à l'approche des côtes égyptiennes.
Le pape François va recevoir lundi pour la première fois au Vatican le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Taeb, considéré comme la plus haute autorité de l'islam sunnite. Chérubin Dorsil.
L'audience est prévue pour lundi, d'après Federico Lombardi, porte-parole du Vatican. Ce dernier n'a pas donné de précision sur les sujets de discussion. Cette première rencontre de l'histoire entre un pape et un grand imam d'Al-Azhar doit marquer une nouvelle étape après 10 ans de tension. En 2006, le pape Benoît XVI avait semblé lier islam et violence dans un discours à Ratisbonne en Allemagne. La grande institution sunnite du Caire avait réagi avec force après cette prise de position du pontife allemand. Les relations avaient même été interrompues en 2011, puis le dialogue a repris après l'arrivée de François. En mars 2014, Mahmoud Azab, un représentant d'Al-Azhar, a participé au Vatican au lancement d'un réseau de lutte contre l'esclavage moderne et la traite des personnes. Le pape a ramené 3 familles musulmanes syriennes pendant sa récente visite sur l'île grecque de Lesbos.
L'état d'exception décrété au Venezuela par le président Nicolas Maduro et rejeté par le Parlement dominé par l'opposition est constitutionnel, a annoncé jeudi le Tribunal suprême de justice, la plus haute autorité judiciaire du pays. Par ailleurs, 500 000 de soldats vénézuéliens devraient participer aujourd'hui et demain samedi à des exercices militaires ordonnés par le président Nicolas Maduro qui brandit la menace d'une intervention extérieure.
La nouvelle présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a appelé ce vendredi à un dialogue positif avec Pékin lors de son discours inaugural, adoptant un ton conciliant face à une Chine de plus en plus hostile. Les deux parties gouvernantes sur les deux rives du détroit de Formose doivent laisser de côté le poids de l'histoire et s'engager dans un dialogue positif pour le bénéfice du peuple de part et d'autre, a-t-elle dit après sa prestation de serment.
Les puissances occidentales ont donné le feu vert à leurs banques et entreprises privées pour développer des activités commerciales légales en Iran. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont signé aujourd'hui un communiqué dans le but d'apaiser les investisseurs occidentaux qui craignent des effets rétroactifs des sanctions non encore levées après l'accord sur le nucléaire iranien entré en vigueur en janvier.
Le Japon, choqué et en colère, demande aux États-Unis de renforcer les mesures de prévention après l'arrestation à Okinawa, dans le sud, d'un employé d'une base militaire américaine soupçonné d'avoir tué une jeune femme.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec Idrissa Seydoudia.
La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a présenté jeudi à Abidjan un nouveau projet en vue de sauver plus de 5000 enfants vulnérables des plantations de cacao dans le cadre du plan d'action national de lutte PFTE contre les pires formes de travail des enfants. Ce projet est financé par le département du travail des États-Unis à hauteur de 4,5 millions de dollars sur 5 ans. À Ouagadougou, le gouvernement a décidé de recruter 5 opérateurs qui vont produire 80 mégawatts dans le cadre de l'énergie solaire au Burkina Faso, a annoncé le ministre en charge de l'énergie, Alpha Oumar Dissa, à l'issue de la réunion gouvernementale tenue mercredi à Ouagadougou. En République centrafricaine, la société chinoise SDIC, qui à cause du conflit s'était désengagé en 2012 de l'usine de traitement du coton à Bossangoa, a entamé hier des discussions avec le ministère du Développement rural dans l'optique de reprendre ses activités. La Banque centrale sud-africaine a annoncé aujourd'hui le maintien de son taux directeur à 7%, tout en révisant à la baisse ses prévisions de croissance pour l'année 2016. L'économie sud-africaine, notamment basée sur l'exploitation minière, tourne au ralenti depuis quelques années, en raison notamment de la chute des cours des matières premières. Elle a été rétrogradée ce mois-ci au rang de troisième économique d'Afrique par le cabinet KPMG, rappelle l'AFP.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique et voafrique.com, c'est l'heure des sports. Bonjour Lionel Gaïma.
Bonjour Bagassi.
Alors on commence par du tennis, hein, Roland Garros, forfait de Roger Federer.
En effet, le Suisse numéro 3 mondial a annoncé son forfait pour le tournoi en raison des problèmes de dos. J'ai le regret d'annoncer ma décision de ne pas participer aux internationaux de France cette année. Ma condition physique s'est améliorée, mais je ne suis toujours pas à 100% et je prendrai un risque en jouant. A expliqué sur son compte Facebook le lauréat du trophée en 2009 et 4 autres fois finaliste 2006, 2007, 2008, 2011. L'homme au 17 titres majeurs avait contracté cette blessure lors d'un entraînement début mai avant le Master 1000 de Madrid où il avait dû déclarer forfait.
Alors déjà un record hein, pour les JO de Rio, les préservatifs.
Même s'ils n'ont pas encore commencé les Jeux Olympiques de Rio, détiennent déjà un record. Le nombre de préservatifs qui seront distribués aux 10 500 athlètes, trois fois plus important que pour Londres 2012, qui avait déjà été un record. 450 000 préservatifs seront distribués aux athlètes à partir du 24 juillet, date de l'ouverture du village olympique, a déclaré jeudi à l'AFP un porte-parole du comité Rio 2016. C'est trois fois plus qu'à Londres quand 150 000 préservatifs avaient été distribués, ce qui fait une moyenne de 42 préservatifs par athlète. À Rio, souligne le quotidien Folha de Sao Paulo. Une votée aussi sur les 450 000 préservatifs distribués gratuitement par le ministère brésilien de la Santé. 150 000 seront féminins, a précisé le porte-parole à l'AFP.
Parlons maintenant à NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Les Cleveland Cavaliers ont surclassé pour la deuxième fois en trois jours les Toronto Raptors 108 à 89 en finale de la conférence Est de playoffs. Cleveland mène 2-0 et a signé son 10e succès consécutif depuis le début des playoffs 2016. Les Cavaliers, battus en finale la saison dernière par le Golden State Warriors, sont seulement la 4e équipe dans l'histoire de la NBA à débuter les playoffs par 10 victoires de suite. Le match numéro 3 aura lieu samedi à Toronto. Le vainqueur de duel décidé au meilleur de sept matchs sera opposé soit au champion NBA en titre Golden State, soit à Oklahoma City, qui sont dos à dos, une victoire partout en finale de la conférence Ouest.
Merci Lionel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagasikoura de retour avec vous. Place à présent au dossier du jour. Retour sur les déclarations faites mercredi par Dr Mukwege, Denis Mukwege, en République démocratique du Congo. Le célèbre chirurgien appelle à un changement radical dans son pays. Il a dénoncé les massacres à répétition qui se sont aggravés depuis novembre 2014, dans l'est de la RDC, avec un bilan de plus de 600 morts. Pour une explication de texte, Nicolas Pinot a joint le docteur Denis Mukwege.
Un système qui fait couler le sang de ses enfants pendant 20 ans. Il faut faire plus, il faut changer le système complètement où l'homme doit être au centre des préoccupations des dirigeants. Mais je crois que le changement doit être radical. La façon de voir, la façon de traiter la population, de considérer cette population, la responsabilité par rapport à cette population. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'après 20 ans, il y a des morts qu'on ne sait plus compter, et ça, ce n'est pas acceptable. Il faut changer le mode de gouvernance que nous avons aujourd'hui et qui, en fait, ne met pas l'homme au centre de ses préoccupations.
Quelle est votre position concernant le délai des élections qui doivent se tenir en principe avant la fin de l'année 2016?
Les élections qui se passeraient dans les délais constitutionnels nous permettraient d'éviter un chaos qui serait à l'origine de nouveaux troubles. Et les troubles, ça veut dire encore une fois la population qui va payer les lourds tributs en payant de leur sang. Et ça, c'est inacceptable, encore une fois. Je crois que lorsqu'on prend un mandat, on commence aussi à préparer la fin de ces mandats. Et donc, je crois qu'il n'y a aucune raison de brandir aujourd'hui qu'on ne peut pas être prêt à respecter la Constitution.
Vous vous exprimez de plus en plus dans le débat public. À quand votre entrée en politique ?
S'exprimer, ça veut dire tout simplement que je suis un citoyen et j'ai le plein droit, la constitution congolaise m'autorise comme citoyen de m'exprimer, donc j'ai la liberté d'expression, je l'utilise comme un citoyen congolais pour dire mon opinion et ma position. Je ne suis pas politicien, je m'exprime comme un citoyen, je ne suis pas politicien.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de Béni. Quel est le danger dans l'est de la RDC?
Vous savez ce qui se passe à Béni, c'est dramatique. Je crois que pour tout Congolais qui aime son pays, c'est dramatique. Et les gens soient massacrés de cette façon, et je crois que c'est tout simplement quelque chose qui, non seulement ça nous attriste, mais ça fait que tout ce que nous avions connu pendant 20 ans revienne en surface, et je crois qu'il faut éviter des situations comme ça. Et malheureusement, dans l'Est, en fait, la situation de Béni est la plus dramatique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des situations analogues dans plusieurs villages au sud Kivu, comme au nord Kivu, même dans l'Ituri, et je crois que ça a trop duré. Par exemple, notre Parlement, puisqu'ils sont nos représentants, ils devraient se saisir de ces rapports et faire des enquêtes pour nous dire qui sont ces gens, qui est le commanditaire, et ils agissent au nom de qui. Sinon, on reste dans la spéculation, et pendant qu'on est en train de spéculer, les gens sont en train de perdre leur vie. C'est pas normal.
Voilà, docteur Denis Mukwege, joint dans l'est de la RDC.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Voilà, venant en Afrique de l'Ouest à présent, où plusieurs facteurs contribuent à l'expansion du terrorisme. Il s'agit de la porosité des frontières qui rend difficile la lutte, les limites des équipements en ressources financières et en capacité des hommes, alors que la menace se focalisait surtout au Mali. Un pays comme le Burkina Faso n'est plus épargné. Au micro d'Éric Manirakiza, le politologue au sein de OZIWA, Open Society for West Africa, Mathias Ungpe, donne deux raisons majeures.
Le premier, c'est qu'il faut reconnaître qu'avec le départ du président Compaoré, il y a quand même un besoin d'ajustement des acteurs politiques ou des leaders politiques au Burkina à la manière dont l'ancien gérait des situations de ce genre. Vous savez que sous le président Compaoré, il n'y avait presque pas d'attaque contre le Burkina parce qu'il était à la fois dans des réseaux d'acteurs impliqués dans ce genre d'action et en même temps à l'intérieur, il avait des forces. La deuxième raison, c'est quand même le fait que le Burkina est associé à des actions, que ce soit au niveau régional ou au niveau international, de lutte contre le djihadisme ou l'extrémisme violent. Il y a une sorte d'expansion des actions, du terrorisme maintenant, qui est sorti des pays traditionnellement concernés, à savoir le Mali, par exemple, au nord du Mali ou au nord-est du Nigeria, pour s'étendre dans la région, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire, au Niger.
Et est-ce que les armées sur place sont-elles capables de juguler à cette menace djihadiste?
Disons que c'est très difficile. Comme vous le voyez, même dans les pays développés qui disposent de moyens beaucoup plus importants que les nôtres, ce n'est pas simple, c'est encore plus difficile. Les pays essaient quand même, tant qu'ils peuvent, de se protéger. Et je pense que lorsque vous regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on pense quand même que la Côte d'Ivoire a été très réactive lorsqu'il y a eu l'attaque de Bassam il y a quelques semaines. Et je pense que vous regardez un pays comme le Sénégal, je crois que le Sénégal essaie par ses moyens de se protéger. Donc je pense que dans les limites de leurs moyens, ces pays sont capables de raisonnablement se protéger, même s'il doit être reconnu que c'est très difficile pour eux, étant donné la limite des moyens dont ils disposent. Quoi.
Qu'est-ce qui manque selon vous?
Je pense qu'il y a même la question simplement de préparation à ce genre d'attaque. La deuxième chose, c'est simplement les ressources. Vous prenez un pays comme le Niger, il y a 2 ans, et même l'année dernière, on a dû faire beaucoup de collectifs budgétaires. Donc pour réajuster le budget, dégager des moyens. Je vous donne un exemple d'un pays comme le Ghana aujourd'hui, ils ont des problèmes alors qu'ils savent très bien qu'ils sont un peu aussi sous la menace. Ils ont des problèmes à dégager les ressources nécessaires parce qu'ils sont dans des accords avec le FMI, etc., qui limitent les ressources. Je vais ajouter un dernier élément qui caractérise la région ouest-africaine cette fois-ci. C'est la libre circulation des personnes. Vous savez très bien qu'avec la porosité des frontières chez nous, vous pouvez partir du nord du Nigeria et aller jusqu'au nord du Sénégal en traversant toute l'Afrique de l'Ouest sans que personne ne puisse tracer vos mouvements. Alors que ce n'est pas le cas, même quand en Europe, il y a cette liberté de mouvement, on peut vous suivre facilement. Comme vous le voyez avec les vidéos, pour identifier votre traversée de frontières.
Voilà, c'était Mathias Hungpe, joint à Dakar au Sénégal.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, au Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
Rendons-nous maintenant dans le nord du Mali. Le Front de libération du Massina indique dans sa toute première vidéo qu'il s'est affilié à Ansar Dine Diad Ag Gali. Le FLM veut libérer le Massina selon les instigateurs du mouvement. Mais l'association Tabital Poulakou estime que ce sont des bandits qui œuvrent pour leurs propres intérêts. Notre correspondant Mamoudou Bokoum nous fait l'analyse de la situation.
C'est une première depuis son apparition en 2015. Le Front de libération du Massina FLM a publié sa toute première vidéo selon certaines presses. Une vidéo dans laquelle il affiche son affiliation à Ansar Dine Diad Ag Gali, qui est également affilié à son tour à Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'instigateur du FLM est Hamadoun Koufa, un marabout peul qui aurait planifié les attaques de Corna en janvier 2013. Le groupe est essentiellement composé de peuls. Il est actif principalement dans le delta intérieur du Niger. Nous avons approché des responsables de Tabital Poulakou, une association pour la défense de la culture peul. Ils s'inscrivent en faux de l'existence de ce front. Selon eux, ce sont des bandits peul, tout comme ça existe dans d'autres ethnies qui évoluent dans la zone pour leur intérêt et non la libération du Massina. Dans le delta intérieur du Niger, les autorités sont presque absentes. La zone est devenue un no man's land où des attaques sont presque quotidiennes. Ce qui a amené des affrontements entre Bambara et Peul dans la commune rurale de Kariri, des affrontements qui ont fait une trentaine de victimes. Mamoudou Bokoum Amopti pour VOA Africa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
L'agriculture verticale est un nouveau concept qui est en train de changer l'approche traditionnelle basée sur les saisons, l'eau en grande quantité, les engrais, les pesticides. AeroFarms, une compagnie basée dans l'État américain du New Jersey, a mis au point une technologie de pointe permettant de produire à moindre coût et en temps record des légumes tout en protégeant l'environnement. Le reportage de Ramon Taylor est présenté ici par Timothée Donangmaï.
Le centre de la ville de Newark, dans l'État du New Jersey, n'a rien d'un paysage rural, encore moins agricole. Et pourtant, c'est ici que la compagnie AeroFarms s'est installée. Dans un immense entrepôt, elle produit sur toute l'année des légumes-feuilles éclairés à la lumière LED et arrosés d'eau transformée en fin brouillard. La décision de se concentrer sur la production de légumes-feuilles constitue un gain pour la compagnie tout comme pour l'environnement, explique David Rosenberg, PDG et cofondateur d'AeroFarms.
Nous pouvons prendre les semences, les faire croître en utilisant moins de 5% d'eau. Et en 16 jours environ, notre récolte par mètre carré est environ 80% supérieure à celle d'un agriculteur traditionnel.
Avec des fermes intérieures déjà opérationnelles sur 4 continents et une autre installation de 6500 mètres carrés devant ouvrir bientôt à Newark, AeroFarms ambitionne d'augmenter sa production et de lancer dans le monde entier des opérations près des grands centres de distribution. Marc Oshima est responsable marketing d'AeroFarms.
Nous voyons tout environnement urbain comme une opportunité. Nous regardons des données comme la densité urbaine et nous pensons à la population, aux gens consommant des légumes-feuilles.
Les fermes internes d'AeroFarms servent aussi de laboratoire de dégustation. Alina Zolotarev, diététicienne et nutritionniste de la compagnie, explique que son objectif est d'amener les gens à consommer beaucoup plus de légumes-feuilles. Pour y parvenir, le goût de ces légumes joue un rôle clé, souligne-t-elle.
Les Américains ne consomment pas assez de légumes. Aussi, pour moi, le plus excitant, c'est toutes ces différentes saveurs dont nous disposons ici. Cela rend la consommation des légumes plus excitante et plus amusante.
L'initiative est si amusante que les élèves d'un collège voisin ont créé leur propre ferme interne miniature dont ils récoltent les produits qui sont ensuite cuisinés et servis en de savoureux plats dans leur réfectoire.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique. Peace Africa! Marabai la fanuni begola. Kila samara vesire. Ali la koliji kalayani febi. Mon amour chéri. Tenembala na ya legele. Don't know.
C'est donc la chanteuse malienne Kandia Camara qui nous chante Sous Midi. Et c'est tout donc pour cette édition. C'est la dernière édition de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. La présentation a été assurée par moi-même, Bagassi Koura et Jean-Roger Bion. La production par Lionel Gaïma. Ainsi va le monde aujourd'hui. Passez une très bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique. L'info est en continu sur voafrique.com.